Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici dans ce deuxième dimanche de carême avec l'illustration de ce vitrail, mais qui, à cette heure-ci, est peu éclairé. C'est le vitrail de la Transfiguration, où l'on voit notre Seigneur en gloire, entouré de Moïse et d'Élie. Pourquoi donc cette Transfiguration qui est fêtée spécialement le 6 août pendant le carême? Eh bien, la réponse traditionnelle et authentique est vraie et il n'y en a pas d'autre. C'est pour nous soutenir par rapport à l'épreuve de la souffrance de Dieu. Nous sommes chrétiens depuis tant de siècles que nous oublions qu'il y a un véritable étonnement, un scandale, qui est d'ailleurs toujours le fait des juifs et des musulmans par rapport à Jésus souffrant. Les juifs au point de considérer qu'il n'est pas le Messie, parce que le Messie ne pouvait pas se couvrir, et pour les musulmans que Jésus est un prophète qui a été substitué par un ange qui a fait semblant de souffrir sur la croix, mais Jésus n'aurait pas été crucifié, l'intégrant ainsi dans le Coran comme un prophète, annonçant l'Esprit Saint, Mahomet. Nous voyons donc bien qu'il y a une peur de la croix, une peur de la souffrance. Or, dans le carême, il nous est demandé non pas d'être masochiste, de souffrir pour souffrir, d'essayer de maîtriser nos passions et nos pulsions et nos envies même légitimes, comme l'appétit, n'est-ce pas, pour surmonter quelque peu notre corps et posséder notre âme, la tenir entre nos mains, pour être maître de notre vie, de notre futur. Alors, la réponse, donc, de ce miracle de la Transfiguration, c'était de donner à Pierre, Jacques et Jean une vision glorieuse du Messie, une vision avec l'apparition de la nuée et la voix du Père pour les conforter. Cependant, nous savons bien que Pierre et Jacques ne seront pas présents au pied de la croix et que même Jean s'est enfui au Jardin des Oliviers et n'a pas suivi notre Seigneur. Notre Seigneur d'ailleurs a dit à ceux qui venaient l'arrêter, « Laissez-les partir ». Ainsi donc, malgré l'annonce même de sa passion, malgré la consolation de la Transfiguration, eh bien, les apôtres eux-mêmes ont eu peur. Et nous, avons-nous peur de notre religion? Avons-nous peur de la croix? Pourquoi et pourquoi non? Pourquoi aurions-nous peur? Eh bien, voyez-vous, lorsque l'on vous dit qu'à Fatima, le 13 octobre 1917, il y eut un miracle devant entre 50 000 et 70 000 témoins qui ont vu tous la même chose, à la voix de trois enfants qui a prévenu la foule, le soleil a dansé. D'un point à l'autre de l'horizon, il tournait et tournait avec un sol illuminé, multicolore, et à la fin, le soleil s'écrasait vers la terre, faisant même sentir sa chaleur, les personnes se mettant à genoux, de crainte, de peur, et le soleil s'est arrêté et a repris sa place. Petit miracle dans le grand miracle, il avait plu toute la nuit et tout le monde était sec et le sol était sec. Ce qui est un véritable miracle. Je ne sais pas si un jour vous êtes tombé dans l'eau, habillé, je peux vous assurer que ce n'est pas en 10 minutes que vous séchez. Or, eux avaient passé toute la nuit sous la pluie pour attendre le miracle. Eh bien, cela se passait en 1917 et touche certaines personnes. Le miracle de la transfiguration, c'est un miracle historique. Ne croyez pas les prêtres, même les évêques, qui vous diraient que c'est symbolique. Jésus, lui, c'est son état normal d'être lumineux. Pourquoi ? Parce que son âme, l'esprit immortel créé par Dieu au moment de la conception, et qui cohabite avec l'esprit éternel du Fils, et qui anime le corps humain de Jésus pour une seule personne, un seul « je ». Deux natures, une vraie nature humaine avec un corps et une âme, et un vrai Dieu, éternel et tout-puissant, avec une relation paternelle, une relation d'amour, mais un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est le Fils, c'est le Verbe, la parole éternelle du Père, qui s'unit à un petit bébé, avec un corps et une âme. Jésus, dès le premier instant de sa conception, son âme est plongée dans la divinité. Et donc, par redondance, par rejaillissement, le corps de Jésus aurait dû être glorieux dès le début. Il aurait dû sortir du, ou même dans le ventre de Marie, être lumineux. Et sortir du ventre de Marie lumineux. Lorsque les enfants à Fatima ou Bernadette à Lourdes voient Marie, son corps est lumineux. Ils ne savent pas comment décrire un corps lumineux, un corps magnifique, comme translucide. Et Pierre, Jacques et Jean voient le corps de Jésus. Et cette redondance de la lumière, de la vie divine, provoque une extase. Bernadette elle-même, lorsqu'elle voyait Marie, son âme était tellement attirée que les sens de Bernadette étaient comme suspendus. Et il est un fait impressionnant à Lourdes, c'est que le jour où, tenant une chandelle, elle est arrivée jusqu'à son doigt, le bon Dieu a préservé la peau d'être brûlée, mais surtout, elle ne sentait rien. Et un médecin qui était présent s'est approché pour voir la flamme lécher le doigt de Bernadette sans brûler la peau, et alors qu'elle était les yeux rivés vers le creux de la grotte. Eh bien, Pierre, Jacques et Jean vivent ce même miracle. Ils sont en extase. Seulement, ils sont de bons juifs, et ils ont toute l'histoire juive avec eux. Et Dieu leur fait une magnifique grâce. Moïse apparaît, qui a vécu quand même 1200, 1300 ans avant. Élie apparaît, qui a vécu 600 ans avant. Et il parle avec Jésus. Saint Luc nous précise qu'il parle de sa mort. Moïse et Élie ont tant attendu le Messie, le Sauveur, mais eux avaient eu la révélation de la souffrance du Messie, comme Jérémie, comme Isaïe. Et ils en parlent alors que Jésus est dans la gloire et que Moïse, lui, est en mort. Admire le Messie et aux côtés du Messie. Et Élie qui, selon la tradition, nous sommes dans le miraculeux et le surnaturel, lui n'est pas mort, est en attente de la fin des temps, parle avec Jésus. Et lorsque ce miracle est éclatant, que Pierre, Jacques et Jean sont illuminés et en extase, voilà que la nuée du désert, 40 années, où le peuple juif a suivi cette nuée lumineuse la nuit, cette tornade le jour, qui, lorsqu'elle s'arrêtait, indiquait qu'il fallait déposer l'Arche d'Alliance et développer toutes les tentes, en attendant que la nuée parte à nouveau et que les prêtres sonnent des trompettes qui sonneront à Jéricho pour indiquer au peuple de lever le camp. et de partir pour encore plusieurs jours dans le désert jusqu'à 40 années. Et donc cette nuée apparaît autour de Jésus, Moïse et Élie, et la voix du Père, quand, comme au mont Sinaï, se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà du surnaturel. Alors, maintenant, devons-nous avoir peur? Mais non. Devons-nous avoir peur de la pénitence et de ces 40 jours de carême? Oh non. Devons-nous avoir peur de ces 40 ans au désert? Non. Devons-nous avoir peur de ces 40 jours au désert de Jésus, d'Élie? Non. C'est une purification heureuse, c'est une libération. Dieu nous a fait pour le bien, Dieu nous a fait pour être victorieux de nos faiblesses, de nos passions, de nos péchés. Et la confession n'est pas une humiliation, c'est une humilité, une libération. Ah, il est sûr que vous avez ici un jeune prêtre de passage. Vous ne le connaissez pas. Il y a parfois des gens qui ne se confessent jamais là où ils vont à la messe pour pas que le prêtre les connaisse. Eh bien là, il vient une fois, profitez-en. Vous me direz, il est jeune. Il a peut-être quelques années de sacerdoce. Alors vous allez avoir peur de son jugement. Et pourtant, ce pauvre petit serviteur de Dieu a donné sa vie pour vous écouter et pour vous assurer de l'amour et du pardon de Dieu. Alors il serait bien triste que vous ayez peur de lui, que vous ayez honte devant lui. Et actuellement, vous voyez qu'il y a une attaque d'une violence inouïe contre l'Église catholique et contre son clergé, contre les prêtres. Pourquoi ? On veut nous faire taire, parce que nous avons parmi nos rangs des débauchés, des criminels. Et pourquoi nous faire taire? Mais parce que justement, nous dénonçons le crime et la débauche. Ce sont ceux-mêmes qui encouragent cette débauche sur Internet, cette éducation auprès d'enfants de 4 ans, de 7 ans, dans les écoles maternelles, dans des écoles primaires, où on leur montre tout ce qui est possible et imaginable de faire. On leur propose d'être des garçons ou des filles. Ce sont ces mêmes personnes qui veulent faire taire l'Église. Là où ils ont raison, c'est que il est honteux que ceux qui donnent des leçons aux autres ne se les appliquent pas à eux-mêmes. Seulement, voyez-vous, quand vous avez un père qui a un cancer de la gorge et des poumons et qui a fumé des gauloises maïs toute sa vie et qui dit à ses enfants « Surtout, ne fumez pas !» Il a tout de même raison. Quand vous avez un pompier qui met le feu le soir venu et qui est pyromane, vous n'allez pas en mettre en cause toutes les casernes de pompiers. Vous aurez bien besoin d'eux. Eh bien, voyez-vous, j'ai besoin de prêtres. J'ai besoin qu'un homme soit ordonné et consacré pour continuer la présence de Jésus sur terre, pour parler, pour confesser, pour consacrer, pour me donner les sacrements, pour être là et continuer l'incarnation. Les prêtres se confessent parce qu'ils cherchent Jésus quand eux-mêmes n'ont pas ressemblé à Jésus. Alors soyons courageux pendant ce carême, parce que nous avons à entrer dans la grâce, entrer dans le surnaturel. Faisons confiance. Dieu est très puissant. Dieu a vaincu la haine, la flagellation, la crucifixion et la mort. Comment pourrait-il ne pas nous sauver avec ses mérites infinis? Demandons à la Vierge Marie, demandons à Saint Joseph et à notre ange gardien de vivre ce carême très simplement et très véritablement, et surtout d'avoir confiance dans un Dieu qui a déjà vaincu le monde. Le feu du ciel à la fin des temps, dans l'Apocalypse, dans 5 ans, dans 50 ans, dans 500 ans, peut-être pas dans 5000 ans, mais entre-temps, notre sanctification, notre pardon, notre humilité pour reconnaître nos torts, c'est maintenant, en effet. Et Saint Joseph, la Vierge Marie et notre ange gardien nous y aideront. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.